Gauche alternative nucléaire vous présente l'émission Radioactive. Bonjour chères auditrices et auditeurs, aujourd'hui Vosges Alternative au Nucléaire vous présente son émission Radioactive et va vous parler d'un sujet à part, je laisse H nous expliquer.
Et oui, alors moi cet été j'étais en Normandie, un super camp contre le nucléaire intitulé ARO, et j'ai pu y interroger un opposant à l'installation d'une piscine au centre de la Hague. Donc cet opposant va vous expliquer à la fois ce qu'on y fait dans ce camp, ce qu'on y a fait, pourquoi ça s'appelle ARO et ce qui se passe à la Hague. À ARO, c'était un week-end, enfin même plusieurs jours de rencontres, alors qu'ils ont intitulé rencontres actives et festives. C'était à Vauville, dans un magnifique village au bord de la mer, avec comme point de vue à droite le centre de retraitement de la Hague et à gauche la centrale nucléaire de Flamanville. Pour information, les deux dernières émissions, on a parlé du nucléaire militaire. La Hague a une histoire aussi avec le militaire, puisque c'est ce centre-là qui a été choisi pour fabriquer du plutonium à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. L'opposant va tout vous expliquer, donc je vous laisse avec le camarade. Qu'est-ce que c'est la Hague dans cette espèce de chaîne de l'industrie du nucléaire entre l'extraction du minerai et le projet de centre d'enfouissement à Bure? Qu'est-ce que c'est la Hague?
La Hague, c'est un centre de retraitement. C'est-à-dire que la France a choisi dans les années 70 de retraiter les combustibles usés qui sortaient des réacteurs et de les retraiter pour extraire le plutonium et afin de construire de produire ce qu'on appelle du MOX qui ensuite est réinjecté dans certains réacteurs. Donc en fin de compte, dans la chaîne, parce que je ne vais pas dire un cycle, mais dans la chaîne du nucléaire, tu as l'extraction, l'enrichissement. Une fois que l'uranium a été enrichi, il part donc dans les réacteurs et on produit des combustibles usés. Les combustibles usés qui vont sortir des réacteurs vont être refroidis au pied des centrales. Et puis après, à ce moment-là, on va donc envoyer ces combustibles usés à la Hague pour être retraités. Et une fois qu'ils sont retraités, ces combustibles, on va donc extraire 1% de ces combustibles usés pour avoir du plutonium, et ce plutonium sera donc associé à de l'uranium appauvri qui va produire du MOX. Ce MOX va partir dans les réacteurs. Le MOX donc va lui-même produire des rebuts, évidemment. Ces rebuts, on ne sait pas quoi en faire. Donc ces rebuts, ils vont être à nouveau envoyés à la Hague. C'est-à-dire que la Hague est à la fois dans l'extraction. Dans la production, dans le parcours du nucléaire, c'est le retraitement. Et une fois qu'on a retraité les déchets ultimes, parce qu'on a des déchets ultimes, là, le projet, c'est de les conditionner et de les envoyer dans ce site d'enfouissement à Bure, qui, peut-être, sera donc utilisé à la fin du XXIe siècle. Et donc, c'est ça. Alors, donc, on est au niveau du retraitement. Ce qui est très important de bien comprendre, c'est que tous les combustibles usés partent à la Hague. C'est-à-dire que tout ce qui sort des réacteurs, tous les combustibles usés vont être refroidis au pied de ces réacteurs, puis tout va être envoyé à la Hague. C'est-à-dire qu'une poubelle, de tous les réacteurs. Alors, on ne vous dira pas ça. Le discours officiel, c'est de dire, ah ben non, les combustibles qui sortent sont tous. On peut toujours les réutiliser, les retraiter. Ce serait quelque chose, ce serait sans fin. En sachant que 96% du retraitement, 95% du retraitement, c'est ce qu'on appelle de l'uranium de retraitement. Et ça, on ne sait pas quoi en faire. On peut le réenrichir, mais tout de suite, les seuls qui savent faire ça, c'est les Russes. Donc on a un contrat avec la Russie, l'uranium de retraitement, pas dans sa totalité, part en Sibérie. Il est réenrichi. Alors, parce qu'on peut le faire, mais ça demande quand même beaucoup de pollution, parce que c'est chimique tout ça, et il y a beaucoup de pollution. Et une partie de ce retraitement, de cet uranium de retraitement, ben, il vient de Russie. Alors bon, tout de suite, voilà, il vient de Russie. Et le reste, il est entreposé. C'est-à-dire qu'il y a plein de déchets, là, qu'on appelle des combustibles, qu'on appelle des déchets. Mm-hmm. Mais Orano dit que ce sont des combustibles qui peuvent être retraités et remis dans le circuit. C'est pour ça qu'il parle de cycle. Mais c'est pas vrai. Le cycle n'existe pas, là. Il y aura toujours des déchets ultimes. Et ces déchets, il faudra toujours... Et la proportion de déchets, elle est toujours la même. C'est pas comme quand on brûle, quand on fait du feu. Hein. Il y aura toujours ces rebuts, ces déchets, ces combustibles qui ne pourront pas être utilisés, en sachant bien que tout ça, on est sur des échelles de plusieurs décennies. Donc, le rôle de l'AG, c'est ça, quoi. Après, on a choisi l'AG pour différentes raisons. Hein. Au tout départ, c'était pour faire la bombe atomique, hein, c'est pour faire la bombe. Ça, c'est les années 60. Quand il y a eu le traité de prolifération, le traité de non-prolifération des armes nucléaires en 68, bon, là, on a arrêté, on a dit, c'est bon, on a la bombe atomique, on arrête, on n'a plus besoin de plutonium, on avait ce qu'il fallait, puisque c'était le rôle premier de l'AG. Et à partir de ce moment-là, bah, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la France a décidé de faire une production de production d'électricité nucléaire, et ça a été le plan Messmer avec la construction des réacteurs nucléaires, avec aussi le choix du retraitement. On le maîtrisait de façon militaire, il est devenu civil. Et à partir de ce moment-là, on est sur un sentier, parce qu'on ne peut plus sortir de ça, sauf de dire on arrête le retraitement. Mais en France, on est le seul pays actuellement qui retraite.
Ah oui.
Ah oui, les Anglais ont arrêté, ils sont en train, ils l'ont arrêté, ils ont beaucoup plus de plutonium d'ailleurs que nous, ils savent pas quoi faire de leur plutonium, donc ils sont en train de... Eux, ils font l'inverse de nous, c'est-à-dire qu'ils le retraitent pour réinjecter de l'uranium appauvri pour le stabiliser en fin de compte, et là il va être stocké à sec.
Okay.
Tous les autres pays stockent à sec, et le seul pays qui voulait aussi retraiter, c'est le Japon, qui a une usine en construction. Alors, je dis en construction, alors j'aurais pas dire de bêtises, c'est plusieurs dizaines d'années qu'elle est en construction. C'est l'équivalent de l'AG, hein. C'est exactement le même prototype, mais actuellement, cette usine elle a coûté des milliards. Elle n'est pas utilisée parce que bon, ils ont tout de suite, c'est le retraitement au Japon est stabilisé. Donc, on est le seul pays à retraiter et on est le seul pays à concentrer dans une même région tous les déchets qui sortent des réacteurs. On les retraite et après, ça partira donc dans ce projet d'enfouissement totalement délirant à Bure.
Ok. Donc là, à la Hague, on va avoir un, on va dire, laboratoire de chimie pour faire le MOX, quoi.
Ouais.
Et parallèlement, des piscines quand ça revient, c'est ça?
Alors, les piscines d'entreposage de combustible usé, ça, c'est un passage obligé, quoi. Mais effectivement, là, et on les a densifiés, parce qu'au bout d'un moment, et comme le MOX, comme la fabrication de MOX patinait pas mal à un moment donné, bah, les combustibles usés, bah, on ne savait pas quoi en faire, parce que il y avait le MOX ne ça suivait pas. Donc, on a densifié les piscines avec le combustible usé. Et puis, le MOX qu'on utilise, eh bien, il revient, effectivement. Les rebuts de MOX reviennent. Et là, il faut les refroidir aussi. Donc, ils sont effectivement dans les piscines d'entreposage. Donc, on a à la fois le combustible usé qui sort des réacteurs et ces rebuts de MOX que, paraît-il, parce qu'il y a toujours... on va vous dire qu'on sait tout faire. Hein, on sait reconvertir, etc. Mais le rebut de MOX, on ne sait pas les reconvertir. Et de toute façon, à chaque fois, il y a une pollution chimique extrêmement importante. Là, il faut bien comprendre qu'on a le nucléaire, mais aussi on a une pollution chimique extrêmement importante avec des rejets dans l'air, avec du tritium qui, on est quand même là, la région la plus tritium au monde, hein, le tritium qui, et on envoie du tritium dans le tuyau là, on a un tuyau ici qui sort avec Algrin, je sais pas si vous étiez à la manifestation hier, mais juste à côté. Mm-hmm. Bon, ben, là, tous les jours, et tout le tritium qui a été dégagé à Fukushima en une seule fois, nous, en un an, tous les ans, c'est la même quantité. Donc, voilà, c'est, ouais. Donc, il y a une pollution chimique. Et dans ces piscines d'entreposage, oui, c'est vrai, et à terme, ça restera là. Ça restera. Et il y aura ces déchets ultimes parce qu'on, ces déchets ultimes qui sont là, qui s'entreposent tout de suite. C'est-à-dire qu'on les conditionne, ces déchets qui sont une des parties du retraitement. On va les contenir dans des, comment dire, dans du, je vais retrouver le terme. Et donc, on les met, et il faut aussi qu'ils refroidissent en permanence. Là, on est en train de construire des tours, là.
Oui.
Des tours en permanence qui sont, et ça sort là tout de suite, là, si on passe devant le centre, là, ça arrive en une espèce de tour, là, qu'il faudra construire jusqu'en 2080. Si le projet, si Géo voit le jour, là, ça partira. Mais en attendant 2080, tous les ans, il va y avoir des cheminées qui vont sortir pour stocker ces déchets ultimes qu'on nous présente, que Orano, quand ils font leur propagande, Orano, il communique, il n'informe pas. Donc, il communique, il nous montre une pièce de 20 centimes d'euros. Ils disent, voyez, ça, c'est les déchets ultimes. C'est ce que chaque habitant pourra avoir une pièce de 20 centimes dans sa poche. Ça représenterait les déchets ultimes que nous produisons. C'est scandaleux de dire ça, mais c'est une manière de dire. Alors qu'il y a d'autres déchets, bien sûr, parce que là, on parle des déchets ultimes, mais il y a des déchets à vie courte, à vie longue, etc. Et eux, c'est des boues, par exemple, c'est tous ces combustibles irradiés qu'on n'utilise pas, etc. Quoi. Vous voyez, il y a une falsification de l'information.
Voilà, on vient d'écouter Room Farlari Dondem, excusez mon breton, du groupe Lududu qui a joué justement au camp Haro l'été dernier. On va continuer l'entretien avec le membre de Piscine Non Merci qui va précisément nous raconter ce camp. Et alors là, on est donc à un camp de 3 jours. Il y a eu en effet une manifestation hier. On est dans un endroit merveilleux, très très beau. Mais au loin, à gauche, on voit donc le PR de Flamanville et à droite donc le centre de la Hague. Et donc toi, tu es membre d'un collectif qui lutte contre l'agrandissement, quoi, des piscines à La Hague. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce camp, de pourquoi ça a été fait et ouais, voilà, pourquoi ça a été fait.
Ah ben, ce camp, c'est l'aboutissement de notre combat depuis 2021. On s'est constitué. Quand on s'est constitué, c'était pour ce qu'on a. C'était pas pour le projet Aval du Futur qui est mené par Orano. Hein. C'était un projet. Au départ, c'était EDF qui voulait imposer des piscines d'entreposage de combustible usé, que nous on appelle déchets, mais eux ils appellent ça combustible usé, pour justement faire face à l'accumulation de ces déchets de combustible, à l'accumulation de ces combustibles usés qui sont qu'on n'arrivait pas à retraiter dans leur totalité. Donc ils arrivaient, alors ils n'ont pas le choix, soit on les stocke, et si à un moment donné on les stocke pas, il faut arrêter la production nucléaire. Donc ces piscines étaient nécessaires face donc à l'arrivée de ces combustibles usé. Donc il y en avait trop, donc proposition de piscine. Et nous, c'était EDF qui a mené ce projet sans écouter la population, en pensant que le territoire de La Hague, très nucléarisé, allait facilement accepter ce projet. Et donc il y a eu ce collectif qui s'est créé, un collectif qui est fait de personnes qui, d'abord, c'est une lutte de territoire. C'est pas une lutte de territoire en disant, je sais plus comment on dit, not in my garden. Non, voilà. c'est pas ça. C'est, voilà, on est déjà à La Hague, retraite déjà beaucoup. Si en plus il y a des piscines qui arrivent, ça veut dire qu'on va accepter que le retraitement soit la seule solution. Il faut penser sortir du nucléaire. On sait bien qu'il faudra, à un moment donné, passer à autre chose. Et là, le choix en France, c'est de dire non. En France, nous avons le retraitement. C'est parfait, on va retraiter, puis on mettra en place un cycle, parce qu'on saura à terme, on ne sait pas encore, hein, mais les générations futures seront retraitées, les rebuts de MOX, et ainsi, il y aura toujours un retraitement. On reproduira toujours ce qui sortira, à part les déchets ultimes, et cela, c'est la pièce de monnaie qu'on mettra à bure, mais le reste, ça va fonctionner. Et donc, nous, on a dit non à ce moment-là. Le projet EDF a été abandonné, je pense qu'il n'était pas très bien ficelé, mais Orano l'a repris pour proposer l'aval du futur, et là, c'est la catastrophe. C'est 3 piscines, mais c'est aussi la confirmation qu'on remplace l'actuelle usine de retraitement qui arrive à terme, et en plus, on va concentrer ici l'usine de Mellox, c'est-à-dire qu'on va fabriquer le MOX ici, c'est-à-dire qu'on a 3 piscines, remplacement de la piscine actuelle, l'usine actuelle de retraitement, plus une usine pour fabriquer le Mellox. Donc on concentre dans un seul lieu une concentration d'activité qui, à la fois, c'est très dangereux, évidemment, c'est très dangereux, même si Orano dira qu'on est très attaché à la sécurité. Ça, moi, nous, au collectif, on a confiance aux salariés. Ça, c'est sûr. Mais l'idée que le nucléaire va être la solution, parce qu'en acceptant ça, ça veut dire que le retraitement va absorber énormément de milliards. Ça va coûter énormément cher. Et ça va empêcher, d'une part, la sortie du nucléaire, puisque le retraitement pour le lobby nucléaire, c'est la solution, et c'est une solution qui va durer des décennies, voire des siècles. Ça va empêcher le développement d'autres possibilités de production nucléaire basées sur les énergies renouvelables.
Okay.
Et donc, pour finir, c'est donc effectivement, au fil de nos luttes, de nos campagnes d'information, etc., bon, l'idée est venue de dire, bon, voilà, il faut faire quelque chose pour... C'était pas en 2021 qu'on a décidé ça. Globalement, il y a 2 ans, quoi. Okay. Il y a 2 ans, on s'est dit, il faut faire des assises du nucléaire. C'est un peu comme ça qu'on voyait ça, mais basé sur le territoire. Et très vite, on a dit, il faut faire quelque chose qui tourne autour de notre territoire et des déchets. Des déchets nucléaires. Comment peut-on accepter sur un territoire autant de déchets qui empêchent d'autres développements économiques de la région, parce que c'est ça, hein, avec l'aval du futur, toute la région va être totalement soumise à l'industrie nucléaire, et ça va accélérer la nucléarisation. C'est-à-dire que tout va être au service du nucléaire. Alors évidemment, on va faire ça bien, hein. on va choisir la couleur des murs, etc. Oui, il va y avoir un habillage, mais en termes d'aménagement, c'est pas un aménagement du territoire, c'est le territoire qui devient soumis à une industrie, une seule industrie. Donc c'est une mono-industrie qui va s'implanter. Et là, et c'est très fort ici, on est dans une région nucléarisée où Orano s'est imposé, quoi. C'est beaucoup de gens travaillent là-haut, etc., dans de bonnes conditions, je pense, etc. Donc c'est très compliqué. Donc ces trois jours, c'était une manière de dire, voilà, on va discuter autour des territoires, autour des déchets nucléaires, mais pas que. On a des tables rondes sur d'autres ouvertures, hein, sur aussi l'évolution des luttes, etc., quoi.
Et alors, les trois jours, ça s'appelle Arrow. Je peux juste dire deux mots sur
Arrow. Alors, Arrow, c'est un cri de colère, quoi. C'est un cri de colère qui est... Et ça vient, dans les années 80, on avait un poète normand qui écrivait en patois et qui avait écrit un poème, Arrow, Arrow. Alors, en patois, c'était... Enfin, je ne vais pas vous réciter le poème, mais ça voulait dire Arrow sur... Cette industrie nucléaire qui est en train de s'imposer. Parce que là, c'était les années 80 où Flamanville, où il y a deux réacteurs, parce que nous, il n'y a pas que le retraitement, on a aussi une centrale de production nucléaire avec deux réacteurs, plus peut-être un jour le père. Et donc, il écrivait ça, c'était tout, enfin, quand on lit ça, c'était vraiment incroyable, parce qu'en fin de compte, il prévoyait ce qui allait se passer. Donc il a écrit un poème, Arrow, c'est un cri de colère. C'est-à-dire que, et dans le droit normand, lui, il n'a pas inventé ce mot-là, hein, c'est un mot qui existe dans le droit normand, à l'époque où les îles que la région était anglaise, avec les îles anglo-normandes, etc., et c'était tout citoyen, tout sujet, tout habitant a le droit de demander réparation. De demander justice sur quelque chose qui lui semble injuste. Donc quand on écrit Arrow, ça voulait dire que devait y avoir une décision de justice, de mise en place. C'était un cri de colère et dire non, je ne suis pas d'accord, il y a quelque chose qu'on m'impose et je demande réparation. Le Arrow a été repris dans les fables de La Fontaine. Okay. Arrow sur le baudet. Voilà, et c'est détourné, c'est intéressant. Voilà.
Merci. Ça va. Thank you.
On vient d'écouter William Lair, ça s'écrit O-U-A-I-M-L-E-R, et c'était la chanson Langui, encore un groupe qui a joué lors du camp anti-nucléaire Arro. Voilà, c'est la fin de l'émission, mais avant de vous quitter, je voulais vous préciser que Orano a annoncé lors de sa dernière commission locale d'information le 27 novembre la construction, l'envisagement de la construction de deux nouvelles fosses pour des déchets vitrifiés ainsi que pour des déchets compactés. Pour information, les installations actuelles contiennent 21 278 conteneurs vitrifiés et 30 464 conteneurs compactés. Et les nouvelles fosses pourraient respectivement ajouter 8 424 et 24 968 conteneurs. Tous ces conteneurs sont par ailleurs destinés à finir à terme dans les tunnels de Cigéo à Bure. Voilà, donc on remercie chaleureusement Radio Gemozo de nous laisser la parole. Et on vous dit au mois prochain avec l'émission Radioactive.